ceux qui ont Sefaria ou comme ça, vous pouvez ouvrir Megillah, Zayin, Amud Aleph. Si vous avez ou bien un Gemara devant vous. Bon, il y a une discussion pour savoir exactement qui parle, mais voilà, on va reprendre là, on va le prendre là où Esther. Shalcha lahem Esther la Chachamim. Esther a envoyé dire, enfin, elle a fait dire au Chachamim, Kitvuni le Dorot. Littéralement, ça veut dire écrivez-moi pour les générations. C'est, disons, la traduction littérale de ce que. De ce que Esther a demandé. En fait, on va l'expliquer, on va dire que elle a demandé qu'on écrive, enfin que la Megillat Esther fasse partie du canon biblique. Aujourd'hui, on a 24 livres qui forment le canon biblique. Il y en avait 23, elle a demandé que le 24e ce soit Megillat Esther. Ça, c'est ce qu'elle leur a demandé. Shalchou, là, ils lui ont répondu, alors, il y a un passouk dans de Shlomo HaMelech qui dit Ketavti lacha Shlishim, Shlishim velo revim. Ils lui ont répondu, on a un pasouk de Shlomo HaMelech, en fait, qui dit que, c'est un pasouk dans Michelet, où Shlomo HaMelech enseigne que le Tanakh ne peut pas contenir plus que trois références à la guerre contre Amalek. C'est-à-dire trois références à la nécessité d'éradiquer Amalek. Madame a insisté. Ils ont trouvé un passouk qui leur a permis d'inclure une quatrième occurrence, si vous voulez, de la guerre contre Amalek. Ça, c'est... Donc là, chez Matsu Lo Mikra Katuv Batora, ils ont interprété un passouk de la Torah de telle sorte que on a pu intégrer Megillat Esther dans le canon biblique. Le passouk qui dit, c'est un passouk qui est écrit dans la fin de Béchalach, qui est donc l'autre endroit, je dis l'autre par rapport à celui qu'on a lu ce Shabbat, nous on a lu dans Kitetsé. Alors, il y a une première occurrence de la guerre contre Amalek qui est à la fin de Béchalach. C'est l'histoire où il y a eu la guerre où Moshe Rabbeinu il a dit à Yoshua de choisir des guerriers et Moshe s'est mis sur la colline avec les bras vers le haut, etc. Vous connaissez ça. Et là-bas, c'est marqué Ktov Zot Zikaron Basefer. Littéralement, ça veut dire écris cela en souvenir dans le livre. Et les Chachamim font la dracha, Ktav, Zot, Mashekatuv Kan, Ube Mishneh Torah. Donc, écrit Zot, Zot c'est ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est écrit à la fois dans Béchalach et dans le Sefer Dvarim, donc par faire quitter le C. Zikaron Mashekatuv Benvim. Ce qui est un Zikaron, c'est ce qui est écrit dans le dans l'Envim, c'est-à-dire c'est le récit de l'Haftara qu'on a lu à Shabbat, qui est le récit de la guerre que Shaoul a faite contre Amalek, guerre dans laquelle il a effectivement gagné la guerre contre Amalek, mais il n'a pas fait ce qu'Hachem avait demandé qu'il fasse. Il n'a pas anéanti complètement Amalek. Bassefer, Marashekatouf Bamdila. Donc, ils ont fait une dracha qui leur a permis de lire dans ce verset qu'on peut aussi écrire, on peut intégrer la Megillah dans le Tanakh. Et la Gemara dit que Tanaé. Il dit en fait, c'est une marloquette Tanaïm, cette histoire 3 ou 4. Parce que dans le pasouk, c'est marqué Ktav, Tov, pardon, Zot, Mashekatouf Kan, Zikaron, Mashekatouf Bemishne Torah, Basefer, Mashekatouf Banvi, Divrei Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit on n'a que trois occurrences permises parce que dans le verset, c'est écrit, il faut écrire Zot, Zikaron, Basefer. Zot, c'est là, ceci, c'est-à-dire ce qui est écrit dans, là où ce verset est écrit, c'est-à-dire dans Beshalach. Zikaron, c'est ce qui est dans Mishne Torah, c'est-à-dire dans ce qu'on a lu Shabbat. Et Bassefer, c'est ce qui est écrit concernant la lecture, concernant la guerre que le roi Shaoul a faite à Amalek. Oui. Donc Rabbi Yoshua dit, on n'a que trois occurrences. Donc on n'a pas de place pour Esther. Dans ce verset, il n'y a pas de place. Là, c'est Rabbi Yoshua. On va ensuite essayer d'expliquer, bien sûr. Mais alors ensuite, il y a une autre lecture. Rabbi Elazar Amadaé, Omer, lui dit, moi je lis autrement ce verset. Je lis Tov Zot. Zot, c'est toute la Torah. C'est Mashekatouf Kan ou Bemishne Torah. Ce qui est écrit dans la Torah. Zot, c'est toute la Torah. Ah, il s'est écrit à deux endroits dans la Torah, c'est bon. Tout ça, ça compte que pour un, parce qu'on compte pour un ce qui est écrit dans la Torah. Mashekatouf Kan, donc, ou Bemishne Torah. Zikaron, Mashekatouf Banvim. Zikaron, c'est ce qui est écrit dans les Nevim, c'est-à-dire la guerre de Shaoul contre Amalek. Bassefer, Mashekatouf Bamgila. Bassefer, c'est ce qui est écrit dans la Megillah. Donc, avec Rabbi Elazar Amodaï, on a la possibilité d'écrire, d'intégrer la Megillah dans le canon biblique. Il y a une troisième opinion. Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel. Bon, non, on va laisser ça. Pour l'instant, comme ça. On va prendre seulement cette marloquette-là. Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar Amodaï. Rashi, Rashi dit Zot, ma shekatuv kan ou be mishne Torah, de kol ma shekatuv ba Torah, kore ktav echad. Ça compte pour une écriture, ce qui est écrit dans la Torah, même si c'est écrit à deux endroits différents de la Torah. Ok. C'est quoi cette histoire? De quoi on parle exactement? Vous voyez, ça fait référence au problème d'Amalek, mais on peut comprendre, si vous voulez, que ce problème d'Amalek, qui est un problème qui accompagne le clan Israël dans toute son histoire, Si vous voulez, Amalek, il accompagne jusqu'à la fin parce que Amalek, il se nourrit de la négativité d'Israël. Donc, tant qu'Israël produit de la négativité, Amalek prospère. Bon, il n'y aura suppression d'Amalek que quand nous ne produirons plus de négativité. Alors maintenant, on va regarder les différents éléments. La première occurrence, c'est celle de Béchalar. Les Bnei Israël sortent d'Égypte. Ils sont tout juste un peuple, en quelque sorte. Et ils sont attaqués par le peuple Amalek. Qui les attaque, on ne sait pas. Qui les attaque, disons, pour le principe. Il attaque pour le principe parce que il va pas gagner de territoire. Les Bnei Israël n'ont pas de territoire. C'est des nomades là qui se promènent dans le désert. Ils n'ont rien à gagner. Et bien sûr, quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, Mitzrayim c'était quand même la puissance dominante. Et elle a été vaincue. Les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim. Ils ont gagné la guerre à la mer. Alors tout le monde a été complètement, on peut dire, tétanisé, quoi. Les peuples étaient tétanisés, c'est ce qu'on dit dans la Shira. Pour les Bnei Israël, c'était une promenade de santé, je veux dire. Personne ne s'est opposé aux Bnei Israël, tellement ils avaient peur. Mais Amalek, il s'est dit, il n'y a pas question, on ne va pas laisser une chose pareille. Peu importe si nous, on perd, mais il faut montrer qu'Israël est attaquable. Pas vivre avec cette idée qu'Israël est inattaquable. Alors, comme disent les Chachamim, Amalek, il a sauté dans la baignoire qui était brûlante, il s'est ébouillanté, mais il a refroidi la baignoire. Il a montré que Israël était attaquable. Donc, si vous voulez, alors maintenant, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est là qu'est écrit le verset, Ktov Zot Zikaron, c'est-à-dire, voilà, écris-le dans le texte de la Torah. Avant, on pourrait dire, voilà, c'est écrit ce que. C'est-à-dire, on va intégrer à la Torah l'opposition d'Amalek. C'est devenu maintenant un élément fondamental, puisque c'est écrit dans la Torah, dans les Chamisha Chumshei Torah, dans le livre de l'Exode, c'est écrit, il y a cette mention de la guerre. Donc, cette attaque d'Amalek et de la guerre d'Amalek. C'est un événement dans le tout commencement de l'histoire d'Israël. D'accord? Ça parle des Bnei Israël. Qui sont tout début de leur pérégrination. C'est des anciens esclaves encore. Donc, si vous voulez, c'est une mention de quelque chose qui a eu lieu dans, on pourrait dire ici, je ne sais pas, que c'est dans la haute préhistoire du clan d'Israël, quelque part. Ce n'est pas encore l'histoire d'un peuple installé. Il y a une deuxième occurrence qui est écrite dans Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. C'est un peu plus que la... un peu différent des autres livres, puisque dans les quatre premiers livres, c'est Hachem qui parle par l'entremise de Moshe Rabbeinu, alors que dans le Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Inspiré, bien sûr, mais c'est lui qui parle. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est déjà un stade où le clan d'Israël est... Le Mishneh Torah, c'est le testament de Moshe Rabbeinu, c'est 40 ans plus tard. C'est 40 ans, mais c'est les 40 ans qui sont très importants. C'est les 40 ans du désert, c'est les 40 ans de formation du clan d'Israël. mais ça reste un enseignement. C'est devenu Torah. Mishneh Torah ou Torah, enfin Torah ou Mishneh Torah, mais c'est de l'ordre de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de quelque chose qui s'est écrit dans le livre. Donc mais c'est très théorique encore. Bien sûr, il y a eu une guerre, mais c'est une guerre presque mythique, parce que c'est la guerre qui a eu lieu, c'est une guerre qui s'est gagnée, parce que quand les Bnei Israël regardaient le ciel, alors ils gagnaient. Ça ne fait pas partie dans les manuels de stratégie de la guerre. Ça ne fait pas marquer, c'est pas vraiment... c'est pas un classique du genre. Donc c'est vraiment un enseignement, quelque chose que sur lequel on est amené à réfléchir, etc. Mais bon. Et puis il y a une troisième occurrence qui elle est déjà dans les Neviim. C'est plus l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est l'époque du Navi Shmuel. Si vous voulez, c'est un cas de figure où on fait la guerre, un peu comme on a fait la guerre sur l'ordre d'Hachem. Là, maintenant, on va faire la guerre sur l'ordre. Ça correspond à ce qu'Hachem veut, mais c'est le prophète qui dit, c'est Shmuel qui donne l'ordre. C'est-à-dire, c'est une parole qui s'adresse à un clan d'Israël qui est déjà maintenant, qui a un roi. Donc c'est déjà un peuple. Mais c'est un peuple sur sa terre, si vous voulez. C'est un peuple qui est installé. Alors c'est le premier roi. C'est vrai. Mais c'est un roi. Donc quelque part, ça devient... C'est une guerre d'un peuple contre un autre peuple. Bien sûr, c'est pas encore une guerre que le peuple a décidé de faire. C'est pas le roi qui a décidé de faire la guerre. Le roi, il en a reçu l'ordre. Un ordre qui lui a été donné par le Navi Shmuel. Et toute cette histoire, elle se déroule, en quelque sorte, dans la prophétie de Shmuel, en fait. Dans la mesure où, comme vous savez, Shmuel était très très attaché à Shaoul. Il aimait beaucoup Shaoul. Shaoul était quelqu'un. Shaoul, c'était un super tzaddik. Shaoul, c'est le bonhomme qui n'a jamais fauté. Au point que quand on va lui dire qu'il a fauté, il n'y croit pas. Il ne comprend même pas ce qu'on lui veut. Il a fait la guerre, puisque Shmuel lui a dit d'aller faire la guerre, il fait la guerre. Mais quand il revient, il salue Shmuel qui est venu à sa rencontre, et il lui dit, voilà, j'ai fait tout ce qu'Hachem m'a demandé. Et Shmuel, il n'en croit pas ses yeux, ses oreilles. Shmuel, il sait que Hachem est en super colère contre Shaoul, et que Shaoul est en train de perdre. Il est en train de perdre la Meloucha, il est en train de perdre la royauté, Shaoul. Alors, Shmuel, il dit à Shaoul, qu'est-ce que ça veut dire, t'as fait? Mais alors, qu'est-ce que c'est tous ces bêlements que j'entends des troupeaux entiers? Et je vois que tu amènes le roi, tu ne l'as pas tué? Alors, Shaoul, il dit d'une part, le peuple, il ne voulait pas tuer comme ça, gratuitement, tous ces troupeaux d'Amalek. La halakha, elle est qu'il fallait éradiquer. Il fallait que rien ne reste du souvenir de... Alors, Shaoul lui dit, il faut tuer les animaux, on va faire des corbanotes. On va les tuer, mais pour Hachem, on ne va pas simplement les tuer pour les tuer. Le roi, on va lui couper la tête en public, on va montrer, etc. Donc, quand on lui dit, c'est pas ça. Alors, Shmuel lui dit, mais est-ce que tu crois vraiment que Hachem préfère, c'est ce qu'on a dit dans la Haftarah, Est-ce que tu crois vraiment que Hachem préfère des corbanotes et il préfère des exécutions publiques, etc. Ou est-ce qu'il préfère qu'on obéisse à ce qu'il a demandé? Alors, il commence à comprendre que quelque chose qui ne va pas, je me suis planté complètement. Alors, il est effondré, il essaie de demander à Shmuel de l'aider, ça, mais Shmuel ne peut rien faire. Shmuel est, on voit très bien qu'il est terriblement triste, Shmuel, parce que c'est l'échec, quoi. C'est un échec pour lui. Le roi qu'il a oint, il a fait tout, il a foiré quoi, complètement. Mais, si vous voulez, cette écriture, enfin, écrire cela, c'est déjà présenter la guerre contre Amalek comme quelque chose de un problème d'une nation contre une autre nation, un peuple contre un peuple. Un peuple avec son roi qui s'oppose à un autre peuple. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus concret, si vous voulez, de plus classique. Ça ressemble plus à une guerre entre deux peuples. Et Rav Yehoshua, il pense, ben voilà, c'est voilà, il y a trois niveaux. C'est ce que Shlomo HaMelech a dit dans Michelet, Shlishim. On a trois occurrences. On a le droit de parler d'Amalek à trois niveaux. Un niveau pré-histoire du, enfin, haute pré-histoire du clan Israël. Ensuite, on parle quelque chose qui est devenu un enseignement, qui est déjà, le clan Israël, il existe déjà comme peuple. Mais ce n'est pas un peuple qui a un roi comme les autres, etc. Il n'a pas de territoire encore. On est dans Sefer Dvarim, ça c'est la deuxième occurrence. Et enfin, et ça à ce moment-là, Rabbi Yehoshua qui dit on a droit à trois, il dit ben voilà, le troisième, ça y est, c'est devenu beaucoup plus concret, classique, etc. Il y a, si on regarde la mitzvah d'effacer complètement Amalek, dans l'épisode de Bachalach, c'est Hachem qui dit « Emre, j'effacerai Amalek ». Hachem dit « C'est moi qui l'effacerai ». Parce qu'on est dans une période où c'est tout Hachem qui fait. En fait, même quand il faut faire la guerre, c'est pas une vraie guerre, quoi. C'est pas. Dans ce qu'on a lu, on a lu Timché. Cette fois-ci, ça s'adresse à nous. Mais c'est comme toutes les mitzvot, Timché. Efface. C'est les Bnei Israël qui doivent faire le job. Bien sûr que c'est Hachem qui va tirer les ficelles et tout ce que vous voulez, mais efface. C'est Hachem qui dit efface. Et comme on l'a dit, chez Shmuel, c'est une autre affaire. Chez Shmuel, c'est déjà, enfin chez Shaoul, donc, c'est Shmuel qui lui donne l'ordre. Bien sûr que Shmuel, c'est un prophète, il parle au nom d'Hachem. Mais bon, c'est presque, c'est un conseiller, c'est un super conseiller parce que c'est l'ordre d'Hachem, et c'est quand même comme ça qu'il est perçu par Shaoul. Shaoul, il comprend que voilà, c'est Hachem qui m'a donné les ordres, mais bon, mais j'ai une certaine latitude, je suis le roi, et donc, alors justement, ce qui lui est dit dans à cette occasion, quand il dit « mais le peuple ne voulait pas comme ça massacrer les… » Alors Shmuel lui dit Mais tu as oublié quelque chose. Que im katan ata benecha, si à tes yeux, tu es tellement modeste, tu penses que tu n'es rien du tout, etc. Mais rosh shifte Israël ata. Tu es le chef des tribus d'Israël. Tu es le roi. Et le roi, il consulte éventuellement le peuple, mais il décide, il tranche. Et tu avais reçu l'ordre de le faire, tu dois exécuter l'ordre, même si le peuple n'est pas d'accord. Donc c'est comme si la royauté non plus n'était pas encore vraiment installée dans le clan d'Israël. C'est un bon roi, il écoute le peuple. C'est pas ça qui lui est demandé. Mais Rav Yehoshua, il pense que bon, c'est tout, on a fait tout ce qu'il fallait maintenant. Et donc toi, Esther, quand tu viens, tu nous demandes quelque chose. Non, c'est une provocation. On peut pas mettre dans le texte qu'il devienne les Kitvei HaKodesh, c'est-à-dire c'est la Bible, c'est le livre des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a déjà trois reprises. On parle d'éradiquer Amalek. Je ne sais pas qui est Amalek pour les autres peuples. En théorie, Amalek, c'est la pointe avancée d'Esav. C'est le petit-fils d'Esav. C'est le noyau vraiment mauvais dans Esav. Esav, il n'est pas complètement mauvais. La tête d'Esav, elle est d'Amarat Amarpela. Il n'arrive pas, c'est pas sa tête qui gouverne, mais la tête, elle est en or. La tête d'Esav, elle est à sa place dans Marat Amarpela. Elle y va toute seule. Mais le noyau vraiment mauvais dans Esav, c'est Amalek. Amalek, c'est le mal par excellence. Mais donc, jusqu'à présent, c'est le peuple d'Israël, un peuple sur sa terre, avec un roi, etc., qui se confronte à l'attaque d'un autre peuple. Mais c'est sûr que c'est difficile de parler d'éradication, puis ensuite une victoire, puis ensuite une énorme victoire où on a anéanti les troupeaux finalement d'Amalek et on a tué le roi. Il n'a pas réussi complètement, Shaoul. Bon, puisque comme vous savez, Aman dans la Megillah, il s'appelle Aman Agagi. Et Agag, c'est le roi d'Amalek. C'est le roi que Shaoul n'a pas tué tout de suite. C'est ensuite Shmuel qui lui a coupé la tête. Mais entre-temps, il a engrossé une servante. Et donc, il y a une descendance d'Agag. Ça fabrique de l'Amalek. Et cet Amalek, là, de fil en aiguille, il se retrouve chef des nobles à la cour de Ahasvéros, à la cour de Perse. Qui est en soi un truc presque incompréhensible. Je l'ai déjà dit, c'est très étonnant parce que, a priori, Amalek, c'est un sémite, puisqu'il est le petit-fils d'Esav. Comment ça se fait qu'un sémite est à la cour, il fait partie des nobles perses? Les perses, ce n'est pas des sémites. Ils ne sont pas des descendants de Shem. Donc c'est difficile d'imaginer que le chef de la noblesse qui a énormément de pouvoir, un bonhomme qui est capable de permettre à Ahasvéros de tuer Vashti. Voilà, vous connaissez bien, quand Ahasvéros dit à Vashti qu'il veut qu'elle vienne, en fait il l'a venue parce que Il veut qu'elle vienne sans les atours royaux. Parce qu'en vérité, c'est elle la descendante de Nebuchadnezzar. L'impératrice, c'est elle. Lui, il est, normalement, il serait un prince consort. Je pense qu'on est dans un pays où il peut y avoir que des rois, que le pouvoir ne peut être que chez les hommes. Donc, elle est la reine, mais tout le monde sait bien que c'est elle la descendante de Nebuchadnezzar. Et donc, quand Ahasvéros, qui lui, il a toujours son problème, c'est qu'il n'est rien du tout. Mais là, il veut montrer qu'elle n'est que sa reine, elle n'est que ce que. Elle est nue, et tu n'es reine que parce que moi, je te nomme reine. Si elle vient avec ses atours royaux, avec ses habits royaux, voilà. Elle dit, c'est moi, Nabucodonosor, c'est moi. Ça, il ne peut pas le supporter. Mais il a pensé qu'il n'a pas réfléchi, quoi. Il a pensé qu'il pouvait lui ordonner de venir et qu'elle allait obéir. Elle l'a envoyé promener. Et donc, il est ridicule, là. Il a perdu la face. Devant la cour entière, elle a montré qu'il n'était rien du tout. Qu'elle, la reine, elle n'obéit pas à ce que son mari, le roi, dit. Il a perdu, c'est fini. En vérité, c'est la fin de partie pour Ahasvéros. Qui est-ce qui lui sauve la vie? Il sauve la mise et la vie et la royauté. C'est Aman. Memouchan, là, qui est c'est Aman, il lui dit, je te permets de tuer la reine. Mais on ne va pas bouger. Normalement, la noblesse ne va pas le laisser tuer la reine. Il dit, tu peux y aller. Mais ça veut dire que désormais, Aman, il a, en fait, il peut dire à Ahasvéros à tout moment, c'est moi qui t'ai fait roi. Sans moi, tu n'es pas roi. Donc, Ahasvéros sait très bien qu'Aman, il veut la couronne. On avait déjà dit, mais c'est ça qui. C'est pour ça que Ahasvéros n'arrive pas à dormir. Parce que Esther, qui vient lui demander une faveur, il a bien compris qu'elle vient pour une faveur. Elle va lui demander quelque chose. Il est prêt à lui donner la moitié du royaume, etc. Mais elle lui dit, tu viens demain, je vais prendre un pot chez moi et tu amènes Amalek, tu amènes Aman. Il est dans son lit, il dit, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut me parler à moi en privé, je suis son mari. Elle amène quelqu'un pour tenir la chandelle. C'est quoi le truc? Il se dit, bon, il doit y avoir un complot contre moi. Esther et la reine et Aman, ils doivent comploter. Il ne sait pas ce qui se passe, il n'arrive plus à dormir. Et c'est ça qui fait tout le tournant, il est là. Donc, c'est le coup de génie d'Esther, on ne présente pas ça comme un es, mais c'est un es galoui. D'avoir eu l'idée de d'inviter en même temps Aman. Deux fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, il y a une guerre. Il y a une guerre. Enfin, c'est une guerre. C'est ce qui se passe. Les Bnei Israël vont. Ils gagnent une guerre contre les Perses. C'est-à-dire, les Bnei Israël, qui ne sont pas sur leur territoire, qui n'ont pas de roi, n'ont plus de roi, qui sont exilés. Ils sont dispersés, comme le dit Aman. Eux, voilà, ils sont maintenant totalement exposés. Et ce n'est pas simplement une autonomie, ce n'est pas une guerre qui pourrait avoir comme conséquence l'occupation du territoire ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là maintenant? Les Bnei Israël, ils n'ont rien déjà. Donc c'est vrai, c'est une solution finale. Terminée. Et donc, ce que dit Rabbi Elazar Amodaï, il ne dit pas du tout. Tu croyais, toi, Rabbi Yoshua, que finalement, on avait atteint complètement le but de l'exercice, quoi, avec l'histoire de Shaoul. Il n'en est rien. Maintenant, le problème ici qui se pose, le problème de la guerre contre Amalek maintenant, c'est un problème de survie du clan d'Israël. C'est un problème, la place d'Israël, la place de l'identité, l'existence même de la notion d'Israël, en quelque sorte. C'est pas une... Quand la France, elle perd la guerre, bon, ils sont occupés jusqu'à ce qu'on se relève. Bon, ici, il ne s'agit pas de ça. Ils sont déjà à genoux, les Bnei Israël. Ils sont dispersés dans un énorme royaume. Ils ne représentent rien du tout. Et c'est ce que dit, avec raison d'ailleurs, ce que dit Amana Rajverosh. Tu n'as rien à gagner, hein. On peut les faire disparaître. Ça va te ramener de l'argent, je te paye pour ça. Et bon, tu ne perds rien. Mais rien du tout. On va les exterminer. Et Ahasverosh, qui lui aussi n'est pas un grand ami des Juifs, si Aman fait le boulot, il est bien content. Mais Rabbi Elazar dit, voilà, on a fait un énorme pas à partir de ce qui s'est passé avec Shaoul. On a fait un énorme pas parce que maintenant, le clan d'Israël, il a atteint une toute autre dimension, une espèce d'universalité du clan d'Israël. Il est partout et nulle part, quelque part, d'une certaine manière. Et donc, et maintenant, cette guerre-là, il n'y a pas de prophète qui leur dise. Il faut réagir. Mordechai, c'est pas un prophète. Mordechai, il l'entend, il y a ce projet de destruction complète des Bnei Israël. Mais il réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en vérité, on peut dire, il est renforcé quand même, parce que Mordechai, il a un problème. Il ne comprend pas depuis le début comment il se fait que Esther ait été choisie. A priori, après avoir tué Vashti, Ahasverosh, quand il a dégrisé, voilà, quand il est sorti de son vin, là, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il n'a plus de femme en plus. Il faut une nouvelle impératrice. Alors on convoque toutes les jeunes filles. Et il choisit une femme mariée. Mordechai, il ne comprend rien du tout. Il n'est pas tout seul, personne ne comprend. Comment c'est possible que cette pauvre Esther ait été choisie? Il y avait probablement des filles de toutes les provinces du royaume qui étaient là et qui attendaient d'être choisies pour devenir impératrice. Il y en avait une qui ne voulait sûrement pas être choisie. Elle a été choisie, alors corps défendant. Alors Mordechai comprend qu'il doit y avoir quelque chose, voilà, quelque chose est en train de se passer, et donc il fait partie des Gdolé Israël, Mordechai. Il a donc beaucoup de travail. Mais tous les jours, il passe des heures à la porte du palais pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe avec Esther. Quelque chose doit bien se passer. Elle n'a pas été choisie pour devenir impératrice et terminé. Alors, bien sûr, nous, on aurait dit, quand il apprend cette histoire-là, il se dit, bon, ben, je comprends maintenant pourquoi elle a été choisie. Elle a été choisie pour intervenir. Maintenant, on a l'impératrice, on peut éventuellement agir sur le roi pour faire annuler les décrets d'Amen. Mais même ça, Mordechai, il n'est pas sûr. Hein. Il ne lui dit pas, c'est sûr. Il lui dit, « Mi yodea imlet kazot adi igat la malchut. » Qui sait? Si ce n'est pas pour ce moment-là que tu es devenu roi, reine. Il ne va pas jusqu'à dire, je comprends maintenant pourquoi. Nous, on aurait tout de suite dit, oh, j'ai compris. Hein. Je comprends. Je ne comprenais pas pourquoi tu es devenu reine. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu deviens reine. Mais même à ce moment-là, Mordechai, il a une prudence. Il ne dit pas, j'ai compris. Il dit, qui sait? Peut-être. Peut-être. Alors, il fait la fameuse proposition. Et donc, on reviendra après ça. Donc, maintenant, Esther, elle a écrit tout ça, avec l'accord de Mordechai. Elle dit, je veux qu'on mette ça. Donc, c'est un texte qui dit bien clairement que cette fois-ci, les Bnei Israël ont fait la guerre contre Amalek, sans ordre divin, et dans des conditions impensables. D'accord. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de Siata d'Ishmaïa, il y a beaucoup d'aide du ciel. Mais à aucun moment dans ce texte, on ne dit qu'Hachem a aidé. Donc ça veut dire que ce texte-là, il a été intégré au Tanakh, à la Bible juive en fait, comme un texte qui parle pour la première fois d'une démarche de tout le peuple qui n'est pas la résultante ni d'un ordre divin comme tel, parce qu'eux, ils ne sont pas partis pour faire la mitzvah de Mefriat Amalek. Ils sont partis pour sauver leur peau. Esther, elle ne va pas là-bas pour tuer Aman. Elle ne sait même pas, en vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Esther, elle ne comprend même pas ce qui lui arrive. C'est vrai que quand Mordechai lui dit « tu dois y aller », il y a beaucoup d'explications, mais une explication, c'est « ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé ». Alors maintenant, on peut dire, s'il n'a pas appelé pendant 30 jours, c'est que bon, c'est qu'il a trouvé une plus belle que lui, une femme qui lui plaît mieux. Ou on peut dire que si maintenant, au bout de 30 jours, c'est sûr qu'il va m'appeler. Il y a deux possibilités. Mais elle dit... Au fond, elle dit à Mordechai, ben finalement, si j'y vais sans avoir été convoqué, il y a toutes les chances que je n'aurai même pas le temps d'ouvrir la bouche. Puisque ce cinglé-là, il pense que si on vient chez lui sans avoir été invité, convoqué, on est mort. Sauf s'il te touche avec son spectre, son sceptre, pardon. Sauf s'il te touche avec son sceptre, parce qu'à ce moment-là, bon, c'est l'image de, c'est la création du monde de Michel-Ange, quoi. Il donne la vie, quoi. Il se prend pour Dieu, donc il donne la vie. Mais si je lui plais pas, je n'aurai même pas le temps d'ouvrir la bouche, je suis déjà morte. Il ne me touche pas, les gens. S'il ne me touche pas avec son sceptre, je suis morte. Ce type, il me tue tout de suite. Je n'aurai même pas le temps d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Alors que si j'attends, dans l'hypothèse où effectivement il va m'appeler, parce que ça fait déjà 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, il va m'appeler, à ce moment-là, je pourrais aller, et je ne risque pas ma peau, je vais pouvoir parler. Et puis, on n'est pas pressé. On est à Pessah. Et c'est prévu pour Adar. Il y a toute une année encore. Pourquoi tu veux y aller maintenant? Pourquoi tu veux que j'aille maintenant? Il vaut mieux attendre. On a tout le temps. Donc, il dit non, non. D'abord, le peuple, ils sont impatients, tout le monde est paniqué, etc. Il faut y aller tout de suite. Ça non plus, ça ne paraît pas très compréhensible. Il y a des kabbalistes qui disent que il faut y aller maintenant parce que Moshe Rabbeinu est déjà en train de prier pour ça. Donc, il faut que tu fasses coïncider ta démarche avec la prière de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas sur quoi c'est basé. Mais... Donc, elle dit, je veux qu'on écrive ça. Qu'on écrive, effectivement, c'est le dernier avatar, c'est le dernier stade. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yeshua, il dit, on a gagné énormément. Quoi. On a gagné énormément parce que maintenant, on a un enseignement qui nous concerne, nous qui sommes en galoute. On est la majorité, la majeure partie du temps, on est en galoute. Et donc cet enseignement-là, le problème d'Amalek, quand on est en galoute, avoir cet enseignement d'une certaine façon, comment est-ce qu'il faut se comporter contre Amalek quand on est en galoute? Ça, c'est fondamental. Ça, on ne pouvait pas le savoir. C'est un enseignement qu'on ne peut pas déduire de ce qui s'est passé avec Shaoul. Parce que Shaoul, c'est un roi sur la terre d'Israël, etc. Et puis là, on a l'impression que les Israélites ont fait ce qu'il fallait. Tandis qu'avec Shaoul, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, alors c'est un peu compliqué parce que finalement, on n'a pas éradiqué Amalek non plus. On a tué Aman qui était Amalek, etc., avec tous ses fils et tout ce qu'on veut, mais il reste de l'Amalek, la mitzvah elle est encore là. Donc il reste de l'Amalek. Où il est, qu'est-ce qui se passe, on n'en sait rien. C'est un Amalek dont on n'a même pas conscience qu'il est Amalek. Aman lui-même, on ne sait pas si Aman est conscient d'être Amalek. Il est Agagi, bon. Il descend de. Il a une ascendance royale, il descend du roi d'Amalek. Bon. Ça veut dire qu'il est du peuple d'Agag. Agag, c'est le roi, c'est pas le peuple. Donc, bon, il est peut-être bien descendant d'Agag. Bon, cette branche-là, d'Amalek, elle a été éradiquée. On a tué Aman, on a tué les fils d'Aman. Il y avait des petits-enfants, mais les petits-enfants, a priori, on dit qu'il y a des petits-enfants d'Aman qui étudient la Torah à Bnei Brak. Peut-être qu'ils ne sont pas tous en train d'étudier la Torah, mais peut-être qu'ils sont encore Amalek. Parce que, sinon, comme le seul qui en a réchappé, c'était à un moment donné, c'était le roi Agag au temps de Shmuel, au temps de Shmuel et Shaoul, et que lui, il a été tué. Visiblement, on ne dit pas, personne d'autre n'a survécu, sauf qu'il a engrossé cette, cette servante-là. Donc, il y a quelque part de l'Amalek qui coule encore dans les veines de certaines personnes. Il y a peut-être eu plus de descendants d'Agag. Entre Agag et... Entre le moment de Shmuel et le moment de Purim, il y a des siècles. Donc, il y aura bien d'autres descendants de cet Agag. Donc il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, je m'étais demandé, peut-être on peut arriver à réfléchir ensemble. Arriver à partir de ce verset qui parle de trois en réalité, montrer qu'on a la possibilité d'avoir quatre mentions. Ça s'est fait pour comment ça s'est fait? Ça s'est fait en disant que ce qui est écrit dans Meshalach et ce qui est écrit dans Kitetsé, ça compte pour un. Que tout ce qui est écrit dans la Torah compte pour un, même si c'est écrit à deux endroits de la Torah. Rabbi Yoshua, il dit, c'est écrit à deux endroits, ça compte pour deux. Donc, c'est fini, il a épuisé ce que le verset peut dire. Et la Bézère Modaï dit, non, moi je lis autrement. Je lis que Zot, ça inclut deux occurrences. Celle de Béchalach et celle de Kitetsé. Zikaron, c'est Shmuel. Et Sefer, c'est Megillat Esther. Alors, on voit d'abord que, on va revenir sur la question, on voit d'abord que Esther, ça correspond à Sefer, au livre. Écrire, ça veut dire écrire pour que ça reste pour l'éternité. L'écriture, c'est une façon d'assurer là, que ça va rester. Et d'ailleurs, ça se traduit dans la Halakha en disant que tous les Kitvé HaKodesh vont disparaître, sauf les Hamisha Chumshe Torah et Megillat Esther. Et qu'ensuite, on voit très bien qu'il y a une halakha dans, qui se trouve dans Masechet Megillah, qui dit que le Sefer Torah, pour l'écrire, il faut d'abord ligner, pour tirer des lignes. On doit écrire sur la ligne. Si je veux écrire un Sefer de Yoshua, Shoftim ou Shaya ou Anabi, etc., je n'ai pas besoin de tirer des lignes. Je peux écrire comme ça. Aujourd'hui, même dans les rouleaux qui est des Nevim, ils sont écrits tout jolis avec des lignes, mais il n'y a pas d'alakha qui nous incombe, qui nous oblige à écrire, à tirer des lignes pour le nar, sauf pour Megillat Esther. Megillat Esther, on n'a pas le droit d'écrire, on écrit que Amita shel Torah, on écrit comme on écrit pour la Torah. Et d'ailleurs, c'est écrit dans, cette halakha, elle est dans Megillah, dans le traité de Gemara qui parle de Megillah. Donc c'est comme si c'est de Megillah qu'on apprenait comment on écrit un Sefer Torah. Le Yosher, la droite. Donc, effectivement, c'est écrit pour durer. Avant, ce qui maintenant fait référence à Shaoul, c'est Zikaron. C'est le souvenir. C'est un souvenir. C'est pas écrit. Hein. Zikaron. Enfin, ça reste de. C'est, même si tu l'écris, c'est une écriture pour s'en rappeler. Ce n'est pas une écriture pour durer, en quelque sorte. Et Zot, Zot, c'est la Torah. C'est, Zot, c'est la Torah. C'est elle. C'est la Torah. Donc, si vous voulez, il y a, au niveau de l'écrit, enfin, de passage de la théorie, le souvenir et l'écrit définitif. Oui, alors, pour revenir à la question que j'avais posée, pour pouvoir lire comme Rabbi Eliezer HaModaï et voir et dire que Sefer s'apporte non pas sur Shmuel et Shaoul, comme le dit Rabbi Yoshua, mais ça porte sur Megillat Esther, il faut dire que les deux occurrences dans les, qui sont écrites dans la Torah ne comptent que pour un. En d'autres termes, ce n'est pas n'importe quoi, parce que c'est mettre sur le même plan quelque chose qui est écrit dans le Sefer Shemot et quelque chose qui est écrit dans le Sefer Dvarim, ou dans Mishneh Torah. Or, Mishneh Torah et Shemot, c'est pas exactement la même chose. À part le fait que c'est écrit à deux endroits dans la Torah, c'est vrai que c'est écrit dans le même Sefer Torah. Mais on sait très bien que, par exemple, dans les Drashot, etc., on traite pas les versets qui sont écrits dans Mishneh Torah de la même manière que les versets qui sont écrits dans le reste de la Torah. Il y a des drashot qu'on fait pour les uns et qu'on ne fait pas pour l'autre. Qu'on fait pour l'autre et pas pour le reste. Et donc, il faut dire, maintenant, ce n'est pas formulé de la même manière. Parce que dans Béchalach, c'est écrit que c'est Hachem qui va Emre, c'est moi qui vais effacer. Et dans Kitetsé, c'est Timre, c'est nous qui devons le faire. C'est un ordre qui s'adresse à nous. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, maintenant vous êtes devenu grand, 40 ans ont passé, quoi, si on veut, entre les deux, et maintenant vous êtes capable de faire tout seul. Donc, il y a déjà cette idée de considérer comme une seule et même chose, comme s'il s'agissait du développement d'un corps vivant, c'est-à-dire qu'on passe de la jeunesse à l'âge mûr, quoi, quelque part. On passe du nouveau-né qui doit être aidé à l'adulte qui peut faire les choses tout seul. Et donc, dire que la Torah, dans la théorie, on a déjà tout pensé. On a pensé à la fois la période de la haute pré-histoire du clan d'Israël, et puis l'histoire du clan d'Israël qui est à la veille d'entrer en Eretz Israël, qui est 40 ans plus tard, bon, qui a reçu la Torah, qui a fait les bêtises qu'il a faites, qui a rangé, etc., qui a fait tchouva, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'est passé sous Moshe Rabbeinu. Tout ça, ça compte pour un. C'est-à-dire qu'il faut unifier les deux. Il faut entendre, dans la théorie, on a pris, ça forme un tout. Il faut compter pour un. Et c'est, si on admet que ça peut compter pour un, alors on peut élargir et parler de la guerre contre Amalek pour un clan d'Israël pour lequel ce n'est pas du tout un problème de territoire, ce n'est pas un problème pour un moment bien précis. Esther dit il faut l'écrire, le Dorot, pour toutes les générations à venir. C'est une écriture, il s'agit non pas de quelque chose qui a concerné le clan d'Israël à un moment bien précis de son histoire, ou de sa jeunesse, ou de sa... Bien, c'est répété dans l'âge mûr du clan d'Israël, si on parle comme ça. Non, c'est quelque chose qui doit concerner le clan d'Israël dans toutes les situations. Le clan d'Israël confronté à la naissance du christianisme, de l'islam, des croisades, de l'expulsion des juifs d'Espagne, de Khmelnytsky, de la Shoah, etc. Dans toutes ces situations-là, on a d'affaires toujours avec de la Malek aussi. Et la Megillat Esther, elle est là pour répondre. Il y a un texte dans lequel Hachem n'intervient pas. Nous, on sait qu'il est là dans la Megillat. Je disais, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit la dernière fois, je dis qu'en réalité, il y a une certaine difficulté parce que, enfin, pour vous, c'est la même chose que pour moi, quand nous lisons la Megillah, en vérité, nous ne la lisons pas comme elle est écrite. D'accord ? Ma bouche, elle lit ce qui est écrit, mais j'interprète avec ce que je sais de la Megillah. Je ne suis pas en train de penser aux choses telles qu'elles sont écrites. D'ordinaire, quand je lis un texte, bon, il y a toujours des interprétations, mais ça colle relativement bien avec ce que je suis en train de lire. Mais là, quand je lis Amelech, je ne pense pas que c'est Amelech Ahashverosh. C'est bien qu'Amelech tout seul, c'est Hachem. Donc, c'est difficile. On lit, mais déjà la lecture de la Megillah, et la Megillah, c'est une opération un peu particulière. Parce que même si on connaît aussi les drachotes, certaines drachotes dans le Sefer Torah, quand on lit le Sefer Torah, on lit quand même comme c'est écrit. Même si en même temps on pense éventuellement à d'autres choses. Mais là, je ne sais pas qui est-ce qui le lit comme c'est écrit, je ne sais pas, des petits-enfants, peut-être les gens qui n'ont jamais, qui n'ont pas l'habitude de lire la Megillah, quoi, qui la lisent, il y a des chiffres, quoi, quasiment. Il la découvre. Et donc, on a affaire ici, si vous voulez, dans cette Gemara là qui nous dit qu'il y a une machloket Tanaïm à ce sujet-là, entre Rabbi Yeshua et Rabbi Elazar Mondaï. Un travail pour comprendre une dimension particulière que Esther et Mordechai ont donné à ce problème de la guerre contre Amalek, une dimension dans laquelle ce qui se joue, c'est pas ce qui se joue d'ordinaire dans les guerres entre les peuples. On a eu la théorie très abstraite de ce qui est écrit dans la Torah. Après, on a une réalisation un peu plus concrète et très particulière avec Shaul. Et Esther, elle donne une dimension complètement différente. Dans Shaul, Shmuel, Shaul, il y a l'intervention divine, clairement, en toutes lettres. Quoi. Et là, c'est pas du tout en toutes lettres. Ici, c'est pas marqué. C'est tout de l'ordre de la dracha, et c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour affronter les générations, il va falloir de l'initiative, en quelque sorte. Et on pourrait presque dire que ce qui a été reproché à Shaul, il dit, mais même si tu es très modeste, mais tu es Rosh Shifte Israël, et donc tu dois décider, tu dois trancher, le roi doit trancher. Eh bien, il y a eu un moment où effectivement, Même ceux qui n'étaient pas des rois, ils ont eu à trancher. Mordechai qui n'était pas le roi, Mordechai n'était pas le Gadolador. Il était un de ceux-là, mais il n'était pas loin d'être majoritaire. Tout le monde est allé au festin, lui, il n'est pas allé manger au festin. On ne dit pas que les autres ont refusé de se prosterner, que Mordechai qui ne se prosterne pas devant Aman. C'est-à-dire qu'il n'est pas le roi, mais il a compris qu'il devait, même au prix de... Tout le monde lui dit, mais t'es un danger public pour le clan Israël. Bon, on a affaire à un cinglé. Comme c'est marqué dans la Megillah, « Vaïves be'enav, ishloach yad be'mordechai ». Ce n'était pas son kavod de... Moi, grand vizir, je ne vais pas m'occuper de Mordechai, tout seul. Normalement, il n'avait qu'un mot à dire et on tuait Mordechai tout de suite. Pourquoi il ne le donne pas? Pourquoi il ne donne pas cet ordre-là? Ce n'est pas son kavod. Pas son kavod de s'occuper d'un juif, d'un seul. Alors, il ne va pas par quatre chemins, en fait. Bon. Ça ne lui convient pas de s'occuper d'un seul. Donc il va s'occuper, il va éradiquer tout son peuple. C'est complètement fou aussi, n'est-ce pas? Il y a un juif qui te fait des problèmes, ton kavod ne te permet pas de t'occuper de lui, alors à quoi tu pars? Occupe-toi de sa famille, je ne sais pas, occupe-toi de je sais pas, des gens qui viennent du même bled que lui. Non? Tout le peuple. Les peuples éparpillés dans 127 provinces, dans le monde entier. C'est le monde de l'époque. Ouais, je vais éradiquer un peuple parce qu'il y a un juif qui ne me plaît pas. Un juif, c'est vraiment tous les juifs. Et ben, il décide, voilà, on va essayer de faire quelque chose, on va prendre des mesures. Ils ont quand même pris des mesures et ils ont dit aux gens, Esther, elle a quand même décidé, avec l'insistance de Mordechai, parce que, en fait, je vous ai dit que Esther, elle lui dit, mais il n'y a pas d'urgence, on peut attendre qu'il m'appelle. Il dit, non, il faut que ça se fasse aujourd'hui, mais si ça se fait comme elle le demande, comme elle dit qu'il faut jeûner 3 jours, ben, ils ont été mevatel. La mitzvah de Achilat Matzah et Maror. Ils ont jeûné à Pessah. Ils n'ont pas mangé de Hametz, mais ils ont jeûné. Ils ont développé une mitzvah très importante, quand même. Pour presque sans raison. Parce qu'effectivement, objectivement, il n'y avait pas de raison d'attendre, de le faire tout de suite. On pouvait attendre une semaine, non? Donc ça fait partie de... Quand on tranche, la tranche est nette, c'est ça qu'il faut faire, ok, alors on va le faire. Voilà, c'est... Je voulais lire sur cette gmara, on va s'arrêter là.